Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Le dirigeant, le chef d'entreprise, se consacre le plus souvent à 200% pour sa société, en oubliant le plus souvent d'ailleurs de s'occuper de sa propre santé. Et le constat, c'est que les chefs d'entreprise sont en moyenne plus à risque que l'ensemble de la population. Et c'est la raison pour laquelle Check-up Santé s'est installé au Sénat pour évoquer ce sujet en présence de prestigieux intervenants. François Sarkozy, Frédéric Salman, Max Ponseiller, président d'Oc Santé, François Braun, past ministre de la Santé, Dominique Serra, président de Maïga Sport Event, Laurence Breton-Cueny, vice-président des RH de France, Quentin Bardet du groupe Carrefour, et le tout sous la haute autorité de Ruth Nevesti, président de Gnosis Santé. Check-up Santé, c'est parti. François Braun, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez, pendant votre passage avenue de Ségur, vous avez beaucoup œuvré pour la prévention. Est-ce que cette prévention, vous avez travaillé sur la prévention, sur évidemment toutes les catégories de gens, mais en particulier, puisque c'est le thème de notre émission, sur les dirigeants?
Oui, je pense que notre société qui s'est développée beaucoup autour du soin a encore d'énormes progrès à faire en termes de prévention. Mais une prévention qui ne doit pas être une prévention punitive, qui doit être une prévention, joyeuse, entre guillemets, c'est-à-dire amener notre société vers plus de prévention. Et des personnes qui sont particulièrement touchés par cette absence de prévention, ce sont les dirigeants d'entreprise, ce sont les personnels non salariés. On a pu discuter aujourd'hui de la protection qui s'impose finalement pour les salariés, mais pas les dirigeants. Les médecins libéraux en font tout à fait partie, les médecins hospitaliers également. Je crois qu'il est important d'arriver vers cette culture, de pousser ces personnes à consulter et à adapter une attitude de prévention.
Vous-même, pendant votre sprint d'une année, voire plus, et à la tête aussi du SAMU, est-ce que vous vous êtes occupé de vous-même? Pas tellement?
Non, ouais. Pas tellement. Il faut le reconnaître. Quand je travaillais à l'hôpital, j'avais beaucoup de facteurs de risque, outre le stress de gérer une grande équipe, de fumer un peu aussi, ce qui a fait que j'ai fait un infarctus, comme malheureusement beaucoup de chefs d'entreprise bien qu'on sûr. Pouvait prendre en charge. Bon, heureusement, pris en charge rapidement, bien sûr, quand on est à l'hôpital.
Est-ce que ça a modifié votre façon de travailler?
Ça a modifié un peu ma façon de travailler, en particulier de m'imposer de faire de l'exercice physique. Ministère, j'essayais de m'imposer de faire deux fois une heure de sport par semaine. J'y arrivais pas, j'arrivais au moins une heure. Et quand je suis parti, il m'a fallu un mois pour me retrouver une forme physique que j'avais d'avant. Ce qui montre bien que cette espèce de machine à laver qu'est la responsabilité, cette drogue aussi, qu'est cette responsabilité, qu'elle soit politique ou entrepreneuriale ou sociétale, fait qu'on se néglige naturellement et on doit être encore plus vigilant et on doit avoir des personnes autour de nous pour nous alerter, la famille, les collègues, pour nous alerter sur l'état de santé.
Alors je sais que pendant votre parcours au ministère de la Santé, vous avez proposé donc des consultations de prévention à différents stades de la vie. Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que le dirigeant a une spécificité particulière? Est-ce qu'il a des pathologies particulières?
Être dirigeant, c'est cumuler des facteurs de risque. C'est pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais pour plein de bonnes raisons. Des facteurs de risque sur le rythme de vie, sur le stress au travail, sur une hygiène de vie qui n'est pas idéale. Donc oui, il est plus exposé aux pathologies cardiovasculaires, au cancer également, quand on sait que l'exercice physique lutte contre l'ensemble de ces pathologies. Et puis, surtout, ce sentiment d'invincibilité qu'a le dirigeant au sens large. Rien ne peut lui arriver. Malheureusement, il tombe malade, probablement un peu plus que les autres sur ce type de pathologie. Et puis, il y a tout ce qui concerne la santé mentale. Je rappelle toujours que pour l'OMS, la bonne santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est le bien-être physique, mental et social. Donc, c'est vraiment des champs qui sont très importants.
Et est-ce qu'il y a des possibilités politiques aussi qui peuvent, aller dans le sens d'une meilleure protection d'un dirigeant?
Je crois que globalement, notre société, et c'est l'impulsion du président de la République, est en train de prendre ce virage de la prévention. avoir réussi à mettre en place la vaccination contre le papillomavirus dans toutes les classes de 5e est pour moi un marqueur important de ce changement, puisque c'est une action qui va être rentable, si je peux m'exprimer ainsi, dans 20 ans. Donc c'est vraiment ça la problématique de la prévention. Et puis les rendez-vous de prévention qui démarrent là sur la tranche 40-45 ans, qui vont ensuite s'étendre à partir de l'année prochaine, 25 ans, 65 ans, qui étaient dans le programme d'Emmanuel Macron, se mettent également en place. Enfin, j'ai poussé le sport santé avec un rapport du groupe du docteur Delandre qui est remarquable et qui, je pense, va continuer sur comment faire pour que cette activité physique non seulement devienne ludique et pas seulement une contrainte, mais en plus se développe en prévention primaire, mais aussi surtout en prévention secondaire pour les gens qui ont déjà fait des pathologies.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Brun. Merci.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Ruth Nevesti, bonjour et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes à l'origine de cet événement sur la santé du dirigeant. Vous êtes médecin, vous travaillez à Montpellier.
Tout à fait.
Et vous faites des bilans de santé, en particulier pour les dirigeants, c'est bien ça?
Oui, mais comme je dis, il s'agit de travailleurs non salariés. Voilà, donc ça permet de couvrir cette population qui n'a pas accès à la santé facilement. À des agendas comme on a parlé lors de cette soirée qui sont assez compliqués et qui peuvent mettre en jeu justement une entreprise, une famille évidemment, et je dirais même d'abord une famille comme vient de nous le dire monsieur Patrick Drahi, et une famille et
une chef d'entreprise consacre, il se sacrifie pour son entreprise, c'est ça?
Tout à fait.
Au risque...
On a l'impression qu'il s'agit un peu d'un sportif de haut niveau qui est en... sur un challenge qui est énorme, et on les voit, ils pensent vraiment...
Sauf que c'est un sportif de haut niveau qui n'est pas suivi.
Tout à fait. Mmh. C'est un sportif de haut niveau qui n'est pas suivi, et malheureusement, et c'est le cas régulièrement, on tombe sur des pathologies qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu sauver,
oui.
Et pour être curatif de la meilleure façon possible. Donc j'aimerais qu'un jour on arrive à parler d'assurance santé et plus d'assurance maladie. Ce jour-là, on aura gagné le pari de la prévention.
Ruth, vous êtes donc médecin référent dans un service de cardiologie, donc à Montpellier, dans les établissements de Oxanté, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, à l'initiative du docteur Max Ponseiller, qui est président du groupe Oxanté et qui, il y a un peu plus de 30 ans, a imaginé à juste titre la nécessité de présence en continu de médecins au sein d'un service médical. Il s'agit justement, entre autres, d'un service de cardiologie interventionnelle. Et ça m'a donné l'occasion de faire, évidemment, de suivre ce patient, mais en même temps d'avoir une prise en charge aussi un petit peu de prévention et de dépistage. On parle beaucoup de prévention, on parle moins de dépistage. Les deux vont ensemble.
C'est un petit peu le but du bilan de santé, non? Que vous effectuez?
Tout à fait. C'est le but du bilan de santé. Ce bilan de santé... Alors, j'aime pas trop le mot quand on dit check-up. J'aime pas tout à fait ça. Alors, je dirais que...
Pourtant, c'est le nom de mon émission, le check-up santé.
Oui. Mais vous l'apportez très, très bien. Et il va très bien. Mais je dirais que, vous voyez, ce qu'on fait... Aujourd'hui, on parle de médecine des parcours, d'une consultation plurielle. Et... j'aime l'observation et la coordination d'un patient. Et je pense que c'est cette observation large, la plus large possible, qui nous permet souvent d'arriver tôt dans du dépistage. Et concernant la prévention, avoir un discours qui n'est pas un discours d'interdit. Et c'est ça qui est important.
Mais comment aller chercher ce chef d'entreprise qui n'a pas le temps et lui proposer, le solliciter pour lui proposer de s'occuper de sa santé? Comment aller le chercher?
Alors, je ne suis jamais allée les chercher. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils viennent beaucoup plus facilement depuis le Covid. Je pense qu'ils ont pris conscience que leur santé avait un rôle ou un impact encore plus important. Ils sont inquiets parce que si on prend ce qui s'est passé depuis ces quelques années, on sait que les facteurs de risque du chef d'entreprise, c'est la solitude, le stress, puis tous les autres facteurs de risque que tout un chacun a. Mais le bon de commande, le bon de commande, alors quand on n'est pas chef d'entreprise, on ne peut pas le comprendre. Et ça, c'est un facteur de risque supplémentaire. Alors, on peut dire qu'en 4 années, ils ont eu les gilets jaunes, on peut comprendre. Ils ont eu le Covid, et ils n'avaient pas le choix. Il y a eu la guerre et une nouvelle guerre.
Donc, une crise économique, monsieur.
Une crise économique, et ça c'est important. Ce sont des facteurs de risque, avec tout ce que j'appelle moi les pathologies émergentes, le syndrome de fatigue chronique que vous connaissez évidemment, des hypertensions plus fréquentes, des syndromes coronariens plus fréquents, et puis le stress. Certaines études disent que la dépression serait la pathologie numéro 1 d'ici 2030. Dans les entreprises. C'est inquiétant. Il faut s'en occuper.
Merci beaucoup, en tout cas, Ruth Nemesi, pour cet événement. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour les dirigeants.
Merci à vous.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Raman Soumanou, bonjour.
Bonjour.
Et merci de votre présence dans le Check-up santé.
Merci.
Alors, vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez voyagé dans le monde entier pour vos différentes entreprises. Et quand on est un chef d'entreprise, sa santé, on la laisse un peu de côté?
Oui, on la laisse de côté simplement parce qu'on a l'impression qu'on peut tout supplanter. On a l'impression qu'on est fort, on a l'impression qu'on est invincible. Pourtant, c'est des éléments fondamentaux même pour la réussite de ces entreprises-là. Alors donc, de temps en temps, on n'est pas réaliste même avec ce qui se passe en nous. Évidemment, j'ai fait le prix de cette négligence et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Madame Neves Neyrut a été une pièce maîtresse même dans ma suivi. Et ça, c'est ça, la suivi même de l'entrepreneur que je suis. Alors, avec toutes les entreprises, avec toujours cette intention, cette envie de partir toutes les secondes, et bien justement, cette santé m'a bloqué et je suis resté là pendant 4 ans sans pouvoir rien faire.
Donc, vous ne le cachez pas, donc on vous a découvert un nodule dans le poumon, c'est ça, lors d'un bilan de santé?
Oui, on m'a découvert un cancer de poumon au stade 4, il faut bien le dire. Avec des métastases,
donc, très sérieux,
avec des métastases à la surrénale et au médiastin, ils ont même dit qu'un pronostic de vie de 3 mois. Ils ont même commencé les soins palliatifs. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que ce qui pouvait faire, ce qui pouvait permettre à un chef d'entreprise ou à quelqu'un de vaincre la maladie qu'il pouvait avoir intentée, c'est le mental. Et donc, je disais que pour la santé du dirigeant, il fallait non seulement le physique, il fallait le mental et même l'émotionnel. Je pense que le mental a joué beaucoup.
C'est beaucoup sur l'émotionnel. Hein?
Oui, l'émotionnel, c'est beaucoup de choses. C'est sa femme, c'est son entourage, c'est sa famille. Comme disait M. Drahi aussi tout à l'heure, il a parlé de la famille. Pour lui, d'ailleurs, il a mis la famille en deuxième position. Eh bien, je ferai la même chose que lui. Je la remettrai même en première position parce que sans la famille, vous n'y arrivez pas. Sans le soutien familial, sans le soutien de votre épouse, de vos enfants et de votre entourage, vous n'y arrivez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Et je pense que c'est ce qui a permis que je réussisse à sortir
alors,
de cette maladie.
Quel a été l'impact, évidemment, sur votre pratique, sur votre vie professionnelle?
Oui, l'impact, c'est que, premièrement, c'est que ça a empêché le développement de mes entreprises. Parce qu'il y avait des initiatives qui étaient prises par moi et que j'insufflais à mon équipe. Et je vous donne un exemple très simple, c'est que je devais signer un gros contrat d'une des entreprises, mais par un chef d'État d'un pays. Vous imaginez, les chefs d'État veulent rencontrer les propriétaires d'entreprise, ils ne veulent pas parler avec les adjoints ou les collaborateurs. Cette santé, cette maladie m'a empêché d'aller à ce rendez-vous et de signer ce contrat. Eh bien, il y en a eu plusieurs comme ça, pas un seul, mais il y en a eu 3 successivement, et qui sont restés depuis 4 ans parce que j'ai eu cette maladie et je viens d'être déclaré en rémission majeure. Et donc, vous voyez, les impacts du fait que nous ne prenons pas soin de nos santé parce que nous nous pensons invincibles nous amènent à rater beaucoup plus de choses. À la limite, on peut même perdre plus qu'on en gagne.
Et donc, du coup, est-ce que vous l'inculquez ça à vos proches, à vous-même, à vos employés, à vos collaborateurs?
Mais non seulement à mes collaborateurs, mais à mes enfants également. Je vois la vie d'une autre manière aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je pense qu'avant toute réussite, il faut d'abord la santé physique et maintenant la santé morale et même émotionnelle. Toutes ces 3 santé dont je parle pour moi vont de pair. Il n'y a pas de dissociation. Donc si vous avez les 3, vous avez des possibilités de réussir. Mais si vous en avez un des 3, vous avez 30% de réussite. Donc pour moi, les 3, c'est 33% chacun.
Eh bien, on est ravis de cette émission, on est ravis de votre bonne santé à présent.
Merci beaucoup.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Laurence Breton-Cueny, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes DRH chez AFNOR, vous êtes membre d'ailleurs du COMEX de chez AFNOR et vous êtes vice-présidente de l'Association nationale DRH en France. Alors, le thème de cette émission, c'est la santé du dirigeant. Est-ce que il y a une stratégie de l'entreprise envers la santé du dirigeant?
Alors en fait, le dirigeant est pour nous pas un salarié comme les autres, mais nous devons nous en occuper aussi dans le cadre de nos politiques santé, qualité de vie au travail. Donc bien sûr, il n'est pas exempt. Et d'ailleurs, on le sait très bien, le dirigeant et ses actions sont exemplaires. C'est un petit peu l'effet domino. Donc nous avons tout intérêt, effectivement, que lui-même soit porteur de notre politique.
Est-ce que le dirigeant se sent un petit peu seul au niveau santé ?
Alors, le dirigeant est par essence isolé par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle nous, DRH, nous essayons de veiller à lui comme aux autres salariés, parce que nous savons combien il est important pour la performance de nos organisations.
Alors, on sait que le salarié est relativement protégé au niveau de sa santé. Est-ce que c'est la même chose pour les professions libérales, pour l'avocat, pour le médecin, pour le patron d'entreprise qui n'est pas salarié ?
Alors c'est vrai que nous, en tant que DRH, on travaille que dans des entreprises où on a de quoi mettre des politiques en place. On sait très bien que c'est pas le cas ailleurs. Et donc ça leur demande, on va dire, beaucoup de discipline et de responsabilité. Parce que sans santé, on n'est rien.
Est-ce que vous avez quand même le sentiment que l'entreprise vraiment dépend de la santé du dirigeant?
Tout à fait, ça a été prouvé par des études. La santé du dirigeant impacte l'ensemble de l'organisation et puis surtout son exemplarité en termes de santé. Si lui a de mauvaises habitudes en termes de mails, de temps de travail, eh bien il va imprimer sa marge. Au contraire, si jamais lui est respectueux à la fois du droit de la déconnexion, des réunions non tardives, eh bien là aussi il va améliorer la condition de travail de ses salariés.
Alors, est-ce que dans d'autres pays, on a des différences sur le management de la santé du dirigeant ? Est-ce qu'il y a des pays où ça marche mieux, où on prend plus en compte les dirigeants ?
Je pense que c'est pas une question de pays, c'est une question de responsabilité individuelle. Parce que beaucoup de dirigeants sont soucieux de leur santé, mais parce que souvent, ils ont eu des problèmes de santé. Et c'est un petit peu là que le bât blesse. Souvent, on se rend compte qu'on ne réalise la précarité de sa santé que quand on l'a perdue. Donc, je dirais qu'au-delà des pays, c'est plutôt des situations individuelles qui font changer. Mais n'oublions pas qu'on a quand même la chance en France d'avoir un bon système de santé. Et donc, dans d'autres pays, il faut mieux faire de la prévention parce que le curatif n'est pas aussi présent qu'en France.
C'est vrai qu'en France, on est bien placé au niveau curatif. Mais c'est vrai qu'en prévention, on n'est pas toujours les premiers de la classe. Non ?
Oui, mais justement, on est là, en tout cas, dans les organisations. Nous, la NDRH, c'est à peu près 11 millions de salariés que l'on couvre. Donc, en tant que DRH, dans les organisations où nous sommes, nous prenons soin des salariés. Et pour nous, même si le dirigeant est un salarié différent, nous devons en prendre soin. Ça fait partie de notre rôle.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Breton-Cuny.
Merci à vous.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Virginie Atlan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Check-up Santé. Donc, vous dirigez la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur.
Exactement.
C'est bien ça.
Y compris la région sud. Alors, en fait, on a une représentation à Paris du territoire qui a vocation à mettre en avant l'ensemble des solutions issues du territoire, de la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la région sud. Donc, mon activité, c'est de recevoir des dirigeants, des dirigeantes en continu. C'est une maison qui a été créée sous l'impulsion de Christian Estrosi, de Renaud Muselier, qui avait vocation à permettre aux acteurs économiques du territoire de pouvoir, au sein de la capitale, faire la promotion de l'ensemble de leurs solutions.
Alors, vous êtes aussi présidente de l'association Nous les Ambitieuses.
Exactement. Alors là, c'est une organisation nationale, internationale de femmes issues de la société civile. On est toutes en activité. On a beaucoup de dirigeantes. On a énormément de chefs d'entreprise qui nous soutiennent et tout un réseau d'experts sur le territoire qui nourrit en continu ce réseau sur des thématiques diverses et variées, dont fait partie Ruth Nevesny. C'est notre experte santé. Et c'est pour cette raison qu'on s'est mobilisé sur ce colloque aujourd'hui au Sénat pour parler de son activité, de ce qui évidemment la touche, la santé du dirigeant.
Parce qu'on parle beaucoup de la santé, évidemment, aujourd'hui, de la santé du dirigeant. peut-être un peu moins de la santé de la dirigeante. Est-ce qu'il y a des particularités, non, ou pas?
Oui, on les a abordées ce soir. On a entendu la dirigeante, en fait, elle a double casquette, c'est qu'elle s'arrête jamais. Quand elle est dirigeante, elle dirige dans son entreprise. Et à la maison, c'est aussi un peu ça, malheureusement, même si les choses changent. La femme, elle s'arrête pas parce qu'elle est maman, parce qu'elle est femme et que beaucoup de choses reposent sur elle. Donc, elle est H24 en activité. C'est-à-dire que même quand elle dort, je pense qu'il y a un côté où on n'arrive pas à être apaisé parce qu'il y a des choses qui trottent dans la tête. Et je suis pas féministe, loin de là, mais on imagine que les hommes, les pères, quand ils s'endorment, quoi. Souvent, la femme...
Vous avez raison.
Voilà. Donc, on s'arrête jamais.
D'où l'intérêt d'une meilleure prévention, finalement. Une prévention
complètement
plus efficace sur la santé de la femme, de la dirigeante.
C'est vrai. Et en même temps, quand on devient mère, on est soucieux peut-être plus rapidement de cette notion. Et on est plus vigilant, peut-être.
Merci beaucoup. Merci beaucoup,
Virginie.
Attends, merci.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Paul-Henri Antoine Mattei, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour cet événement sur la santé du dirigeant dont vous êtes spécialiste. Vous avez écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages là-dessus. Vous êtes professeur de droit du travail à l'Université de Montpellier, doyen honoraire de l'Université de Montpellier. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour un petit peu... le statut de la santé d'un dirigeant d'entreprise?
Il n'y a absolument pas de cadre juridique. Alors justement...
C'est bien dommage.
Alors est-ce que c'est dommage ou pas? Il y a un double paradoxe lorsqu'on évoque la question de la santé et du travail. Le premier paradoxe est un paradoxe médical qui a été parfaitement démontré ce soir. C'est-à-dire que le travail peut conduire à une détérioration de l'état de santé, aussi bien physique que mentale, avec, nous le savons aujourd'hui, une problématique plus prononcée en raison de la tertiarisation de l'économie qui est la santé mentale, avec les risques psychosociaux. Et puis en même temps, nous le savons, et ça a été parfaitement dit par un certain nombre d'intervenants, le travail est un travail qui guérit, le travail est un travail qui épanouit. Nous avons entendu parler de passion de la part de chefs d'entreprise qui
créent
et de plaisir, bien sûr. Nous parlons nous-mêmes dans les entreprises de qualité de vie au travail. Il y a des accords collectifs sur la qualité de vie au travail, d'amélioration des conditions de travail. Donc c'est le paradoxe médical. Et puis ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, il y a un paradoxe juridique. Si vous êtes travailleur salarié, vous bénéficiez de très nombreuses règles en matière de santé, puisque nous avons dans le Code du travail des dispositions à la fois législatives et réglementaires qui conduisent le chef d'entreprise à protéger la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs. C'est même un des piliers fondateurs en France du droit du travail, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et on relie du reste à cette thématique de la santé et la sécurité, aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui nous l'a appris, toute la réglementation sur la durée du travail, les périodes de repos, les durées maximales de travail. Donc, quand on est travailleur salarié, finalement, c'est l'employeur qui est tenu par des obligations. Alors, les travailleurs non salariés, les professions libérales et les dirigeants qui ne sont pas dans le cadre d'un contrat de travail, on ne s'en occupe pas juridiquement. Et pourquoi? Parce que, par leur activité libérale, ils assument le risque économique de leur entreprise. On est évidemment respectueux de la liberté d'entreprendre et à eux, au fond, de se préoccuper finalement de leur propre santé, de l'adéquation entre leur charge de travail et le risque en matière de santé. Alors peut-être faudrait-il éventuellement organiser un cadre juridique peut-être un peu souple, mais dans un premier temps, on l'a bien vu ce soir, la priorité c'est de les sensibiliser. La priorité, c'est de leur faire comprendre que on est travailleur, quel que soit le statut, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, elle est importante. Le risque d'altération de la santé, mentale et physique, elle est encore plus forte parce que leur charge de travail est plus élevée. On nous a donné des chiffres que nous connaissons. C'est minimum 50, 55, 60 heures. Bon, parfois... il n'y a pas de coupure dans la semaine. Il y a évidemment une sorte de dépendance vis-à-vis des outils numériques. Donc, voilà, à nous de mobiliser, à nous de sensibiliser. Et nous avons eu un témoignage intéressant de la vice-présidente de la NRH qui dit, mais nous, les cadres dirigeants, bien sûr qu'on s'en occupe aussi, bien sûr qu'on les incite à. Il y a des packages qui conduisent à proposer aux cadres dirigeants des check-up santé. Et évidemment, ça permet à ce moment-là cette sensibilisation et finalement ce développement
dans le sens d'une meilleure qualité d'entreprise.
Ah, complètement. Du travail. Parce que on l'a bien vu, et plus l'entreprise est petite et plus le rôle du dirigeant, du patron, j'ai tendance à dire, dans les petites entreprises,
et
les
terminants,
c'est le pilier. On l'a dit, des dirigeants de grandes entreprises, l'un va remplacer l'autre. Quand on est grand, on est fort et on n'est pas atteint par, malheureusement, l'altération de la santé de l'un. Alors que quand on est peu nombreux et que le patron est bien présent, évidemment, si lui a une défaillance, ça vacille.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Paul-Henri Antoine Mattei. Merci beaucoup.
Merci.
Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes chef d'entreprise, faites attention à votre santé. Allez faire un contrôle chez le médecin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.